Mesdames, Messieurs, et bienvenue au dernier cours de l'année. Au fil des séances pendant lesquelles vous m'avez fait l'honneur de votre présence, nous avons essayé de transformer un kaléidoscope en une mosaïque. Les textes anciens nous ont montré que le rapport entre droit et économie dans le monde romain était riche en facettes et en couleurs et qu'il fallait patienter avant d'en obtenir une image bien défini. Mon propos a été explicitement de multiplier les points de vue sur le même objet, de peur de tomber victime de mon propre point de vue unilatéral d'homme du XXIe siècle. Pour y parvenir, nous avons d'abord cherché à établir un arrière-plan, à transporter notre discours dans l'Antiquité, notamment en adoptant comme cadre de référence l'économique antique, dont nous avons retracé les aspects principaux grâce à Aristote, Xénophon, Philodème de Gadare et Cicéron. Puisque l'économique est un discours philosophique, cela nous a d'emblée donné une direction, presque une étoile polaire. Pour les anciens, il y avait un rapport fondamental entre usage de la richesse et vertu. Dit de façon extrême, l'économique antique relève de la morale, l'économie moderne du calcul. Mais ce serait justement extrême, et cela reviendrait à ignorer beaucoup de facettes du kaléidoscope. D'abord, les Romains n'étaient pas complètement dépourvus de connaissances sur le fonctionnement du marché. Par exemple, ils étaient conscients du mécanisme de formation des prix lié au rapport entre demande et offre. En outre, ils n'étaient pas du tout à l'abri du désir de richesse, de croissance, voire de luxe. Au contraire, ils se considéraient eux-mêmes coupables d'avidité. Les inclinaisons contradictoires se multiplient. Le rejet du luxe se manifestait même chez les juristes, qui étaient pourtant les experts, les techniciens de la richesse. Réintroduire le rôle du luxe et souligner que les Romains n'ignoraient pas les mécanismes de l'économie du marché, c'est l'une des nuances que nous avons apportées à des visions de la vie romaine qui risqueraient autrement d'être trop idéalisées et au fond naïves. Lorsqu'on cherche à tout prix l'altérité des anciens, on n'est pas mieux placé que lorsqu'on cherche à montrer qu'ils pensaient exactement comme nous. Par souci de se soustraire aux idées modernes, ou pire, par désir d'utiliser les anciens pour faire la critique de nous-mêmes et de nos mœurs, ces visions simplistes et passéistes tombent dans l'excès opposé de nous présenter une antiquité faussement primitive, irénique, un âge d'or qui n'a jamais existé. Au fur et à mesure que les textes d'une séance à l'autre nous ont dévoilé les pratiques et les cadres mentaux des Romains, nous avons pu apprécier comment toutes ces dimensions et tous ces éléments apparemment contradictoires reprenaient leur place et leur sens. Il dessine la figure d'une société, celle de la Rome antique, qui plaçait beaucoup d'importance dans les hiérarchies sociales. Dans notre séance de la semaine dernière, par exemple, nous avons vu que lorsque le fils d'un sénateur risquait de se trouver dans l'indigence, loin de chez lui pour raison d'études ou pour un service public, les juristes et les prêteurs multiplier les moyens pour lui permettre de retrouver une qualité de vie cohérente avec son rang. Argent, rang, renommée, le droit romain réagissait et s'alignait à toutes ces valeurs sans se borner à en privilégier seulement une. Si l'on considère la complexité de cette configuration, on comprend pourquoi les juristes n'ont pas poursuivi à travers le droit des objectifs de maximisation de la richesse tels des experts au service de la rentabilité d'une banque. De fait, nous avons pu constater l'extrême rareté des arguments à caractère économique parmi les raisons d'être, les dits du prêteur, décrites par les juristes eux-mêmes. Au contraire, la grande majorité des justifications s'appuyaient sur des motifs que l'on peut qualifier d'internes au système juridique. Par exemple, la protection de la liberté des choix des contractants, la symétrie des informations, l'équilibre entre avantages et inconvénients. Donc des raisons que je qualifie d'internes au droit et au système juridique. Cet état des sources soulève donc un doute radical avec lequel je souhaite terminer mon cours, tout comme c'était le doute par lequel nous l'avions commencé. Est-ce la juste perspective celle d'interroger les droits antiques du point de vue de l'économie, comme on le fait souvent, ou faut-il renverser la relation entre les deux systèmes? Autrement dit, il ne faut pas se demander dans quelle mesure les motivations économiques ont influencé les décisions juridiques. Au contraire, à Rome, ce sont les motivations juridiques qui prennent souvent la place qu'occupent dans notre monde les arguments économiques. C'est ce que nous montrerons de façon saisissante les deux textes par lesquels je souhaite terminer mon cours. Ils concernent deux sphères différentes, privées et publiques, où ils mettent en œuvre des valeurs juridiques. L'arrière-plan commun que je vous prie de garder à l'esprit par la suite de cette séance est la notion de remissio mercedis, la remise du loyer dans le contrat de location. Remise du loyer. La location est le contrat, vous savez très bien, par lequel une des parties, le bailleur, s'engage à fournir la jouissance d'une chose corporelle, par exemple un fonds de terre, en retour d'une rémunération en argent à laquelle s'engage le locataire. Ce contrat implique un équilibre entre la jouissance de la chose, d'une part, et la rémunération de l'autre part. Donc c'est l'équité qui règne. En conséquence, le fermier d'un bien rural a droit à une remise de fermage au cas où la récolte, en droit romain, n'a pas pu être perçue par suite d'un cas de force majeure, inondation, grêle, invasion. C'est ça la remise du loyer. Donc un cas de, disons, de déséquilibre causé par le fait que le locataire n'a pas pu vraiment profiter de son bien à cause d'un événement de force majeure, le bailleur est tenu à lui remettre une partie du loyer en proportion au dommage subi. Donc, cette remise du loyer, c'est le droit qu'il impose. Donc, c'est un devoir de la part du bailleur. C'est une question d'équité pour garantir l'équilibre dans le contrat, cet équilibre originaire qui fait que le profit d'une partie, c'est-à-dire la jouissance du bien, doit être en équilibre avec la rémunération qu'il paye au bailleur. Alors, voyons maintenant si les Romains utilisaient ce principe, le principe que je viens de vous présenter, comme critère d'action valable même en dehors de ce cas spécifique. Donc, tout mon effort théorique aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a un principe juridique bien connu, qu'on appliquait en force et en raison d'une norme juridique. Et donc mon effort, mon hypothèse aujourd'hui, c'est de montrer si, de vérifier si ce même principe était mobilisé aussi ailleurs, donc là où il n'y avait pas le droit qui l'imposait. Pour montrer justement si c'était les trois qui fournissaient des modèles d'action, même là où on s'attendrait à des comportements orientés seulement, indexés sur le profit économique. Alors, premier exemple tiré de Pline le Jeune, sénateur, avocat, proche de l'empereur Trajan, consul suffecte en 100 après Jésus-Christ, gouverneur impérial de la province de Bithynie et de Pont, où il mourut probablement en 113 ou en 115 après Jésus-Christ. Donc, au moment de son séjour en tant que gouverneur dans cette province. Voici ce que Pline écrit à Calvisius Rufus, un chevalier romain décurion de Com, la ville natale de Pline dans le nord de l'Italie. C'est un correspondant avec lequel Pline souvent partage des considérations d'ordre pratique. D'autres visitent leur domaine pour en revenir plus riche qu'avant. Moi, je n'y vais que pour en revenir plus pauvre. Alors, vous voyez, c'est une lettre écrite à un ami, donc c'est l'équivalent d'un mail que nous pouvons envoyer à un ami, un correspondant, mais elle est rédigée selon les lois de la rhétorique. Et on commence par un exorde qui donne déjà le ton général à cette lettre. Vous voyez, il se présente comme quelqu'un qui, à l'inverse de la plupart des gens, ne tire pas nécessairement un profit de ses biens, mais il en revient plus pauvre. Et ça éveille aussi notre curiosité. Comment ça? Après vient la narration. C'est une partie de la lettre, une partie du discours aussi, discours judiciaire. J'avais vendu ma vendange sur pied, les commerçants enchérissant en envie. Ils étaient alléchés par le prix, celui d'alors et celui qu'on prévoyait. Leurs espoirs ont été frustrés. Il aurait été simple de leur accorder à tous la même remise. Donc, on va le voir bien mieux, mais afin que vous puissiez déjà vous orienter, donc il y a eu une vente qui a été gouvernée par cet espoir que le prix du vin aurait augmenté, mais cette prévision était fausse. Donc, il y a un moment où les acheteurs se disent « Nous avons acheté à un prix trop haut. » Et Pline fait cette considération. « Il aurait été simple de leur accorder à tous la même remise, mais guère équitable. Et je suis d'avis que l'une des choses les plus importantes est de pratiquer la justice dans la vie privée comme dans la vie publique, dans les petites affaires comme dans les grandes, et de l'appliquer à ses propres affaires comme à celles des autres. Car si nous disons avec les stoïciens que toutes les infractions sont égales, il en va de même pour les mérites. » Donc encore une fois, après la narration, il y a une sorte de présentation du critère d'action qui va suivre. Et voici le dispositif, ce qu'il fait. Je rendis donc à chacun un huitième du prix qu'il avait négocié, afin que personne ne m'équitât les mêmes vides. Je fis ensuite une disposition spéciale pour ceux qui avaient investi de très grosses sommes dans leurs achats, car ils m'avaient rendu un plus grand service et leur perte était plus grande. J'ai donc accordé à tous ceux dont les achats avaient dépassé 10 000 sesterces un dixième de tout ce qu'ils avaient dépensé au-delà de ces 10 000, en plus du huitième initial commun à tous. Je crains de ne pas bien me faire entendre. Peut-être c'est vraiment le cas. Laissez-moi essayer de rendre mes calculs plus clairs. Supposons que quelqu'un avait acheté pour 15 000 sesterces. Ils recevraient un huitième des 15 000 plus un dixième de 5 000. Après cela, étant donné que certaines personnes avaient payé des grandes tranches de ce qu'elles devaient, c'est-à-dire qu'elles avaient déjà payé, versé la somme qu'ils devaient, le prix d'achat, tandis que d'autres, seulement une petite partie, d'autres rien, je pensais qu'il était fou de les traiter toutes également par la générosité de la remise, alors qu'elles n'avaient pas été égales quant au maintien de leur engagement. J'ai donc accordé une nouvelle fois un dixième de la somme reçue à ceux qui avaient payé. Cela m'a semblé une façon adéquate d'exprimer ma gratitude à chacun selon ses mérites passés et de les encourager tous non seulement à acheter chez moi à l'avenir, mais aussi à payer leurs dettes. Mon système, ou ma bonne nature, m'a coûté cher, mais elle valait ce qu'elle m'a coûté. Toute la région loue la singularité de ma remise et sa structure. Quant aux acheteurs, que j'ai classés et notés au lieu de les mesurer tous avec le même bâton, pour ainsi dire, ils sont partis en se sentant d'autant plus obligés envers moi qu'ils valaient mieux et étaient plus honnêtes, voyant que je ne suis pas une personne qui tient en honneur égal les méchants et les bons. D'où le titre de ce cours. Cette lettre est datée probablement de 107-108 après Jésus-Christ. Pline possédait un patrimoine conséquent, au moins 6 villas, pour la plupart près du lac de Côme, dans l'Italie du Nord, sa ville natale, comme je viens de le dire, où aussi son correspondant résidait. Bien que Pline lui-même dise que son calcul est compliqué, tout est expliqué dans les moindres détails, car Pline veut que son équité soit claire pour tout le monde. Donc il y a un souci d'auto-représentation. Le point de départ est la vente de sa récolte de raisins, la vendange. Donc Pline l'a mise aux enchères. Il faut bien comprendre qu'il a mis sa vendange aux enchères. Et les offres ont été très élevées, car les acheteurs s'attendaient à ce que le vin produit ensuite ce raisin aurait pu être vendu à des prix très favorables. Ils s'attendaient à ce que le prix du vin augmentait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont payé, ils ont offert un prix d'achat assez élevé. Donc, c'est l'image de ce qui aurait été la suite de cet achat. Alors, cela suffit à nous faire comprendre que les Romains étaient tout sauf ignorants des rouages de l'économie. Il est évident. Il y a une spéculation ici. Ces producteurs de vin ont spéculé achetant le raisin dans la perspective d'une hausse des prix du vin. Alors, le problème a été que les prévisions, comme ça arrive souvent, ont été fausses. Le prix du vin a chuté, peut-être parce que la récolte dans la région avait été abondante et que la production de vin était supérieure à ce que le marché était prêt à absorber. On n'en sait rien, on sait seulement qu'il y a eu cette prévision qui ne s'est pas réalisée. Il y a aussi, dans cette lettre, aussi une information pertinente pour l'histoire économique de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il y avait des fluctuations régionales, donc que le prix du vin, du raisin, subissait des variations dans des aires restreintes. Donc il n'y avait pas un seul prix du vin et du raisin. Alors, il faut comprendre, c'est le point de départ essentiel, il faut comprendre que c'est le contrat est parfaitement valable. C'est-à-dire, cette oscillation, cette fausse prévision, la chute des prix, n'a aucun effet, n'impacte pas sur le contrat d'achat du raisin. Et deuxième élément, il ne s'agit pas d'une location d'un bien. La remise du loyer est une institution qui s'insère dans le contrat de location. Ici, nous sommes dans le cas d'un contrat d'achat. Donc, il n'y a pas d'obligation de la part de Pline d'effectuer cette remise. C'est quelque chose qu'il fait spontanément. C'est de la solidarité, on pourrait dire, ou c'est un sens commercial avisé, quelqu'un pourrait dire peut-être plus raisonnablement. Donc, Pline applique à l'achat et à la vente un mécanisme similaire à celui de la location. Il veut se comporter selon la justice, il le dit explicitement. Et la justice, c'est l'état d'esprit, c'est l'attitude de quelqu'un qui donne à chacun ce qui lui est dû. C'est la justice distributive. Et donc, pour atteindre cet objectif de donner à chacun ce qui lui est dû, il emploie le critère de l'équité. Donc, vous voyez la différence entre la justice, c'est une attitude personnelle, et l'équité, c'est les critères qu'on mobilise pour atteindre un objectif de justice. Alors, pour faire cela, on l'a bien compris, il n'adopte pas un pourcentage unique de remise égale pour tous, mais une série de pourcentages différenciés, de sorte que celui qui a été plus généreux vers Pline puisse recevoir une remise plus élevée. Et il le dit clairement, il fait référence à la théorie des stoïciens, selon laquelle tous les péchés sont égaux, ont la même gravité. Donc il ne faut jamais pécher parce que c'est tout sur le même plan. Donc il se dit, mais si on adopte cette perspective, aussi les mérites sont tous égaux. Donc il préfère différencier. Il utilise deux paramètres. D'abord, le prix. Et là, il différencie deux tranches jusqu'à 10 000 sesterces. Il remet un huitième, c'est-à-dire 12,5%. Puis il ajoute pour ceux qui avaient payé une partie du prix. Puis il ajoute pour ceux qui avaient offert un prix plus élevé, plus de 2 000 sesterces, une remise supplémentaire de 10%. Il prend ensuite en compte un deuxième paramètre, les paiements des sommes promises. Certains des acheteurs avaient déjà payé leurs dettes, d'autres avaient payé moins, d'autres encore n'avaient rien payé. Il offre ici une remise de 10% sur les sommes effectivement déjà versées. Et le résultat est effectivement très efficace. Prenons deux exemples. On commence par la première partie. Alors, on prend deux exemples, c'est-à-dire on commence par quelqu'un qui a payé 10 000 sesterces. La remise qui lui est accordée est de 1250 sesterces, c'est-à-dire un huitième, 12,5. Si pour quelqu'un qui avait payé 15 000, la remise, c'est de un huitième, c'est-à-dire 1875 sesterces, plus la deuxième remise de 500 sesterces pour un montant total de 2375 sesterces. Ce qui est, relativement plus élevé que le premier. On va le voir encore mieux, mais on passe au deuxième critère de différenciation, celui du prix payé. Alors, l'acheteur qui avait payé 10 000 et qui avait payé 1 000, il reçoit une remise de 100 sesterces. Donc, les 1250 sesterces de la première formule plus les 100 de la deuxième fait un montant total de 1350 sesterces de remise, c'est-à-dire 13,5%. Pour le deuxième, s'il a effectué un paiement de 10 000 sesterces sur les 15 000 qu'il avait payés, il y aura 2375 sesterces, c'est la première remise sur le prix de l'offre, plus 1500 en rapport au paiement effectué de 2000 sesterces. Ça fait un montant total de la remise 3875 sesterces, ce qui fait 24% du chiffre initial. Alors, vous voyez que les deux sont traités de façon très différente. C'est-à-dire qu'il y a presque le double de remise, un pourcentage, pour le deuxième par rapport au premier. Donc, je pense que c'est assez clair, même si les détails peut-être vous échappent. Mais je pense que c'est assez clair. Alors, revenons à l'explication que Pline donne de sa démarche. Alors, il faut comprendre que si Pline s'est considéré un droit d'exhiber sa vie dans ses lettres, c'est parce qu'il l'a jugée exemplaire, ou du moins qu'il l'a présentée comme telle. On pourrait regarder sa correspondance comme une forme de littérature autobiographique même. Donc c'est pour ça qu'il y a cette insistance sur ce respect si minutieux de la justice. Plus que de se dévoiler, Pline se construit par ses lettres. Il le dit dans deux passages que j'ai reproduits ici de la lettre que nous avons déjà lue. Il aurait été simple de leur accorder à tous la même remise, mais guère équitable, dit Pline, et je suis d'avis que l'une des choses les plus importantes dans la vie est de pratiquer la justice dans la vie privée comme dans la vie publique, dans les petites affaires comme dans les grandes, et de l'appliquer à ses propres affaires comme à celles des autres. Et ensuite, mon système ou ma bonne nature m'a coûté cher, mais elle valait ce qu'elle m'a coûté. Toute la région loue la singularité de ma remise et sa structure. Quant aux acheteurs, j'ai classé et noté au lieu de les mesurer tous avec le même bâton, pour ainsi dire. Ils sont partis en se sentant d'autant plus obligés envers moi qu'il valait mieux et était plus honnête, voyant que je ne suis pas une personne qui tienne en honneur égal les méchants et les bonnes. C'est une citation d'Homère. Alors, faut dire que dans ce passage, Pline souligne d'une part sa justice de façon abstraite comme une pure vertu qu'il faut pratiquer si l'on veut être un homme de bien, mais dans la partie finale, il explique que cette attitude n'est pas seulement équitable, elle est aussi utile, pour revenir aux deux grandes catégories, aux deux mots-clés qu'on a vus utilisés par les juristes, équité et utilité. Donc, ce n'est pas seulement équitable, ça ne répond pas à son attitude de justice, mais elle est aussi utile. Parce que cette attitude lui vaudra des liens de gratitude de la part de ceux qui ont vu bien évaluer les mérites de chacun. Alors, trois considérations sont à retenir de cette lettre. D'abord, que justice et utilité coïncident. C'est un peu ce qu'on avait vu dans Cicéron, dans les Officiis. Ensuite, que selon Pline, la gratitude dépend de l'équité. Donc, qu'on arrive à susciter de la gratitude si on mobilise l'équité. Ça, c'est un passage qui n'est pas évident. C'est-à-dire que c'est le comportement équitable qui suscite l'admiration, le respect. C'est quelque chose qu'on pourrait ne pas prendre trop, ne pas trop envisager, parce qu'on pense que peut-être la gratitude, on l'obtient plutôt par le favoritisme. Au contraire, il nous dit que c'est un comportement équitable en général qui suscite, engendre la gratitude. Enfin et surtout, Pline n'a pas géré cette affaire en prenant en compte un pur objectif de maximisation de la richesse. Il est évident, il le dit lui-même, les autres visitent leur terrain et en reviennent plus riches. Pour moi, c'est le contraire, j'en reviens plus pauvre. Donc, ce n'est pas l'objectif de la maximisation de la richesse. Il a préféré gagner un renommée de justice, un lien de gratitude, un lien. Donc, pour lui, l'objectif, c'était de construire, alimenter un réseau de liens de gratitude, une clientèle, si vous voulez, une clientèle au sens politique, une clientèle au sens commercial. Donc, pour lui, le bon usage de la richesse, c'est plutôt orienté vers la construction des liens sociaux. Et donc, on peut le symboliser par cette image où on peut croire peut-être que c'est le festin des acheteurs qui ont obtenu leur remise et qui vont fêter cet événement. C'est complètement faux, mais disons, l'idée, c'est celle que je voulais vous transmettre. Alors, Pline disait qu'il songeait à se porter un homme juste dans ses affaires, autant privé que public. Alors, on passe au deuxième document. On se demande si on a des éléments pour affirmer que cette même emploi, remploi des critères d'équité, des critères juridiques, s'avérait aussi dans le domaine public. Le document que je vous présente pour vérifier cela est un papyrus, c'est un édit d'Adrien. C'est une constitution impériale. Constitution impériale, cela veut dire tout simplement une norme impériale, une norme émise, promulguée par un empereur. Et les constitutions impériales prenaient des formes diverses. L'édit, c'est la forme la plus générale, c'est-à-dire c'est un annoncement qu'on fait en public de cette norme, de cette décision prise par un empereur. Et vous en voyez ici le texte, c'est-à-dire que ce type de normes était après copié dans plusieurs exemplaires. D'ailleurs, on possède quatre papyrus avec quatre exemplaires de ce même texte, ce qui démontre qu'il avait été bien diffusé. Donc c'était quelque chose qu'on avait pris soin de recopier, de faire circuler. Donc, je vous propose le texte d'un de ces quatre, un papyrus qui est gardé à Oslo. Alors, point de départ, en Égypte, il existait des terres publiques qui étaient données en usufruit contre le paiement d'une redevance. Donc, il existait des terres publiques. Et c'était une sorte de location, mais une location qui était entre, disons, l'État, pour ainsi dire, et les particuliers, donc qui était soumis à un régime différent, à un régime fiscal. Donc, c'est le point de départ. Lisons le texte, nous le lisons comme des Égyptiens l'auraient, des habitants de la province romaine d'Égypte l'auraient écouté, pas en français mais en grec. L'empereur César Trajan Adrien Auguste, fils du divin Trajan Partique, petit-fils du divin Nerva, pontife Maxime, doté de la puissance tribunicienne pour la 20e fois, 2 fois empereur, 4 fois consul, père de la patrie, dit. Donc il faut que vous imaginez quelqu'un, un héros de l'empereur qui prononce à haute voix cette formule et ce texte. Ayant été informé qu'aujourd'hui, c'est Adrien qui parle, par la voix de son émissaire, ayant été informé qu'aujourd'hui encore, comme l'année dernière déjà, le Nil s'est développé trop modestement, ni même, donc il y a une lacune, même si dans une série d'années précédentes, la crue a été non seulement complète, mais peut-être plus importante que jamais, et que l'inondation de toute la région a été la cause de la production de fruits abondants et excellents, j'ai néanmoins jugé nécessaire de faire un peu de philanthropie envers les cultivateurs, bien que j'espère, et qu'il soit dit avec l'aide de Dieu, que dans les années à venir, même s'il y a une pénurie actuellement, elle sera reconstituée par le Nil lui-même et la terre, selon la nature cyclique des choses qui passent du flux et de la fécondité à la rareté et de la rareté à l'abondance. Bon courage! Sachez que la taxe monétaire sera payée par tranche pour les habitants de la Thébaïde qui risquent le plus d'être lésés par la pénurie en 5 versements annuels, pour les habitants de l'Étanomis en 4, pour les habitants de Basse-Égypte en 3, avec la possibilité de payer par semestre pour ceux qui le désirent, à condition que la prorogation accordée reste en place, pour les habitants de la Thébaïde en 5 ans, pour ceux de l'Étanomis en 4, pour ceux de Basse-Égypte. 1-3. Alors, cette norme impériale est destinée à être affichée, proclamée partout en Égypte. Elle est rédigée selon un format qu'on retrouve souvent. Et je peux vous dire, c'est presque le même format de la lettre de Pline. C'est le format des discours judiciaires. C'est le format de tout discours rédigé selon les préceptes de la rhétorique. Donc, il y a un exorde. Ici, c'est d'abord le nom de l'empereur avec ses titres. Ensuite, la narration, le récit. Vous vous souvenez que Pline lui-même, il avait décrit ce qui s'était passé. C'est la description de la situation. C'est la description de la situation qui rend opportune son intervention. Ce récit contient aussi l'énonciation par l'empereur lui-même du critère qui guidera son action. Et après ces prémices vient la disposition elle-même. Donc c'est un texte qui est très logique. Donc il y a au départ les titres de l'empereur, après une description de la situation, il y a le critère. Vous vous souvenez que Pline lui-même, il expliquait longuement que... Il était un adepte de la justice et qu'il poursuivait l'équité. Donc, c'est le même type d'explication qu'on trouve ici. Après, Pline décrivait les mesures qu'il avait adoptées. Et ici, on trouve le dispositif de la part d'Adrien. Ce que je veux vous dire, c'est seulement... Il n'y a pas un rapport entre le texte. Hein. Ben, c'est seulement qu'il y a une sorte de moule de format d'empreinte commune qui dérive de la rhétorique. Ce que je veux vous dire, c'est que la rhétorique était omniprésente, c'est-à-dire qu'elle vraiment imprégnait tous les discours. Donc, il y a une empreinte commune qui dérive de la rhétorique, qui nous permet aussi de suivre de façon assez simple la décision d'Adrien. Alors, d'abord, c'est le moment de la narration. Adrien a été informé par des pétitions de particuliers ou peut-être par le préfet qui gouverne l'Égypte que les crues du Nil ont été faibles pendant 2 années consécutives et que par conséquent, les produits de la terre et les revenus des cultivateurs seront faibles. Il tient à souligner que cela devrait s'évaluer sur une plus longue durée. Il évoque notamment une idée très répandue dans l'Antiquité, c'est-à-dire les cours cycliques de la nature. Il le dit explicitement, il faudrait, dans une série d'années précédentes, la crue était non seulement complète, mais peut-être plus importante. Donc, il dit, peut-être, bien que j'espère que dans les années à venir, même s'il y a une pénurie actuellement, elle sera reconstituée par le Nil lui-même, la terre, selon la nature cyclique des choses, qui passe du flux et de la fécondité à la rareté, et de la rareté à l'abondance. Donc, on voit cette idée qu'il faudrait évaluer dans une perspective plus longue. Pas du présentisme, il faut avoir un peu un horizon plus éloigné. Donc, vous voyez, la nature chez les anciens est quelque chose d'un peu différent par rapport à notre conception. Et ce sera justement le sujet de mon cours de l'année prochaine. Nous parlerons de droit de nature, nature sans droit. Et donc sur les implicites romains de notre pensée moderne à propos de la nature. Et c'est justement après avoir évoqué la nature et ses cycles qu'Adrien annonce le critère qui guidera son action dans ce contexte. Il parle de philanthropie. Donc, je me suis décidé à appliquer un peu de philanthropie. En latin, ce serait humanitas, humanité. Mais c'est un mot aux significations variées. À mon sens, il recouvre l'attitude à accueillir l'autre en tenant compte de sa condition humaine. Donc, de ses besoins, de ses faiblesses. C'est l'attitude de celui qui sait vivre en société, mais vivre en société en accueillant l'autre dans toute son humanité. Et vous voyez très bien ici, parce que Adrien est accueillant par rapport aux besoins des cultivateurs. Donc vous voyez cette idée d'humanité qui est prête à se charger aussi des exigences d'autres qui ne sont pas exactement les siennes. Après, bien le dispositif, c'est-à-dire la norme juridique elle-même, et déjà on pourrait ouvrir un chapitre peut-être dans une des années suivante. C'est une norme juridique, mais c'est une norme juridique habillée en discours, parce que le dispositif aurait pu être isolé, sans aucune explication précédente, et c'est notre forme, la forme isolée de formuler des injonctions et des normes. Tandis que pour eux, une norme juridique était toujours entourée par un discours, par une justification, qui prenait même des formes rhétoriques. Donc c'était inséré dans un circuit de communication. Le dispositif dit que Adrien n'accorde pas une remise du loyer égal pour tous. Je dis remise du loyer, même s'il utilise un mot un peu différent, il parle de taxe monnayée, foros argyricos, mais selon l'interprétation la plus probable, il s'agit effectivement de la partie du loyer pour la location de terres publiques qui était effectivement calculée en argent et pas la partie qui était calculée plutôt en produit. Et c'est effectivement ces loyers fixes en espèces qui pouvaient devenir excessivement lourds en cas d'une récolte excessivement pauvre. Alors, donc, il décide d'accorder cette remise, mais ce n'est pas une remise égale pour tous, parce que la mesure du versement est calibrée en fonction des régions et des dommages prévisibles pour chacune d'elles, du sud au nord. Donc, pour la Thébaïde, le loyer pourrait être payé en 5 versements annuels, donc 20% chacun. Pour les habitants de l'Heptanomys, en 4 versements annuels. Et pour les habitants du Delta, qui était la partie la plus fertile, donc où on pouvait prévoir des dégâts moins importants, le paiement était divisé seulement en 3 tranches. Donc vous voyez que cette différenciation se fait sur le nombre de versements qui étaient prévus. C'est exactement la même démarche de Pline. Cette différenciation, dans le cas de Pline, se faisait sur des critères, disons, de générosité ou de la part des acheteurs. Ici, on le fait sur la base, disons, des conditions climatiques et géographiques, mais c'est le même critère de différenciation. Alors, venons maintenant, pour terminer, au cœur de la lecture de ce document. Si vous vous souvenez de la remissio mercedis, de la remise du loyer, vous voyez que c'est exactement le même mécanisme. Adrien considère lui aussi qu'il faut garder un équilibre entre le profit d'une partie et celui de l'autre. Mais, et c'est le point crucial, dans le contrat de location, le propriétaire bailleur était obligé d'opérer la remise. C'était une règle juridique. Dans le cas de la jouissance de terres publiques, ce n'était pas imposé, ce n'était pas une règle. Donc, l'empereur agit en appliquant spontanément le principe d'équité qui régissait les contrats de droit privé. Il le dit ouvertement. Il s'agit de sa part de philanthropie, d'un geste d'empathie envers les difficultés des autres. On comprend très bien qu'il le fait, bien entendu, car il souhaite aussi s'acquérir la bienveillance des habitants de l'Égypte. N'était-ce pas aussi le cas pour Pline qui souhaitait s'acquérir la gratitude des acheteurs? Bien évidemment, il y a aussi cette critère d'utilité. Pour Adrien, on pourrait même imaginer, ou plutôt rêver d'autres mobiles, par exemple, que pour lui, le Nil n'était pas un fleuve comme les autres, car son bien-aimé Antinous s'y était noyé lorsqu'il avait 20 ans, alors qu'il accompagnait Adrien lors d'une tournée en Égypte en octobre 130. Qui peut dire ce qui animait Adrien lors de sa décision 6 ans après? Donc, ce n'est pas ça, ce qui nous intéresse. Il peut y avoir beaucoup de mobiles, même très personnels. Ce qui est intéressant, c'est que sa décision nous montre à quel point l'usage de la richesse était à Rome guidé par des objectifs qui n'étaient pas seulement, et même pas en priorité, des objectifs purement économiques, de maximisation. Au lieu de se laisser guider par de pures considérations de rentabilité, de maximisation fiscale, Il aurait pu dire, mais vous me devez cette somme, il faut que vous la payiez. C'est à vous de trouver l'argent, même dans cette situation de détresse. Mais au contraire, Adrien adopte le critère d'équité comme guide. Il agit tout comme Pline. Alors, j'insiste, il n'était pas obligé de le faire, ni Adrien, ni Pline. Mais ils ont agi selon les critères de l'équité, du rééquilibrage du rapport entre avantages et pertes, selon une logique fine d'adaptation aux situations individuelles, les mérites pour Pline, la géographie pour Adrien. Et n'est-ce pas de cette façon que l'économie devient morale? Que la richesse prend un sens différent si elle sert pour acquérir un rang, de la renommée, un support politique ou social. Vous voyez ici que toute la différence, c'est le schéma qui résume le cours d'aujourd'hui. Il y a une source qui peut être une obligation juridique dans le cas de la remise du loyer dans le contrat de location, ou il peut y avoir d'autres mobiles plus, individuels, la philanthropie, l'humanité, la solidarité, l'utilité également, et le critère qui, disons, d'une part, c'est les droits qu'il impose, de l'autre, ce sont ce type de mobile, mais le critère est le même, celui de l'équité. Et c'est un critère qui a été, bien entendu, élaboré dans beaucoup de champs, aussi dans le champ de la philosophie, c'était le critère fondamental du droit. Cela me semble montrer que le droit à Rome donnait les critères pour atteindre des objectifs qui allaient au-delà de la maximisation du profit. Et c'est-à-dire que nous avons pu comprendre qu'à Rome, c'était l'équité qui l'importait sur le calcul. Je souhaite vous remercier pour votre assistance. J'espère vous revoir l'année prochaine dans un monde, je l'espère, un peu plus équitable. Je vous remercie beaucoup.